Bon, ben bonjour à tous, merci d'être venus et restés pour cette troisième et dernière table ronde de la journée, donc, qui est autour du thème donc, des nouvelles pratiques de contrôle dans le travail. Donc, vous allez assister à trois interventions. Donc, la première sera menée par Laurent Villemez, donc, maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers. Donc, son domaine d'activité de recherche s'inscrit principalement dans les champs de la sociologie du droit du travail. Donc, il est entre autres l'auteur de l'ouvrage « Le droit du travail en danger », paru aux éditions du Crocan en 2006. Il a également publié en collaboration avec Antoine Vauchez « La justice face à ses réformateurs », qui est paru aux presses universitaires de France en 2007. Et il a aussi dirigé avec Hélène Michel un livre collectif intitulé « Les prud'hommes », publié en 2008 aux éditions du Crocan. Donc, dans sa communication, Laurent Villemez nous traitera de la question du pouvoir patronal dans le droit du travail. Donc ensuite, la deuxième intervention donc, sera effectuée par Alan Stevens, maître de conférence à l'Université de Poitiers. Donc, ses travaux de recherche s'inscrivent dans les champs de la sociologie du travail et des professions, mais aussi de la formation et des dispositifs de gestion. Donc, Alan Stevens a notamment publié en 2008 dans la revue Sociologie Pratique un article intitulé « Quand le psychologique prend le pas sur le social pour comprendre et conduire des changements professionnels ». Elle a aussi contribué, au travers de son article « L'autonomie supposée des informaticiens », donc à la rédaction du livre collectif « Heures et malheurs du professionnalisme » qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2009. Hélène Stevens nous exposera dans sa communication la manière dont se substituent aujourd'hui les pratiques de contrôle par des dispositions d'autocontrôle dans les formes d'encadrement du travail. Et enfin, pour terminer, Nadège Vézina, donc, qui est à terre en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers. Nadège Vézina est doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Sa thèse en cours s'inscrit dans une approche socio-historique qui porte sur la Poste et ses conseillers financiers. Nadège Vézina s'inscrit dans des domaines de recherche correspondant à la fois au champ de la sociologie des professions, mais aussi dans celui de la sociologie des organisations, ou encore, et de manière plus globale, dans le cadre d'une sociologie du travail. Elle a notamment contribué à la réalisation d'ouvrages collectifs en publiant « Le conseiller financier de la Banque Postale, une professionnalisation entre rupture et continuité », donc qui s'inscrit dans une contribution à l'ouvrage dirigé par Patrick Chantal Costalter et Catherine Omnes, qui intitulait « Le salariat bancaire, enjeux sociaux, pratiques de gestion », publié aux presses de l'Université de Paris 10 en 2009. Donc, dans sa communication, Nadège Vézina nous proposera de mettre en lumière les dispositifs de contrôle auxquels sont soumis les conseillers financiers et les marges de manœuvre qu'ils arrivent à en dégager. Voilà. Donc on commence avec Laurent Villemez.
Merci Arnaud. Donc, à travers cette réflexion sur surveiller, contrôler, ficher, il nous a semblé intéressant d'essayer de voir comment les choses fonctionnaient aussi dans le cadre du monde du travail. Et donc, moi, plus précisément, je vais vous parler de, peut-être après j'élargirai un petit peu, mais des questions de droit du travail, tout en sachant que je ne suis pas juriste, mais que j'essaye de proposer des réflexions sociologiques sur le droit du travail. Le cœur, le fondement, la base du droit du travail salarié, c'est la thématique de la subordination des salariés à l'employeur. C'est donc, à l'inverse, le pouvoir patronal. L'entreprise appartient à l'employeur, plus ou moins, après. Et pour faire fonctionner cette entreprise, l'employeur recrute des salariés, jusqu'ici tout va bien, recrute des salariés qui s'engagent dans un contrat de travail, par un contrat de travail, et dans ce contrat de travail, il y a l'idée qu'ils se soumettent volontairement à l'autorité de cet employeur. Les juristes évoquent toujours l'article 1134 du Code civil, qui oblige à l'exécution des contrats légalement formés. C'est très, très connu, point central du Code civil, mais qui fonctionne pour l'ensemble des contrats, et en particulier pour le contrat de travail. On est donc dans un contrat inégalitaire qui donne à l'employeur un certain nombre de devoirs, certes, il doit des formes de sécurité aux salariés, sécurité économique, mais aussi sécurité en termes de santé et de risque contre et de prévention des accidents de travail. Donc un contrat qui donne à l'employeur un certain nombre de devoirs, mais qui lui donne aussi un certain nombre de droits. Et donc, ce contrat met le salarié dans une situation de dépendance, situation de dépendance qui rend globalement illégitime la résistance à l'ordre patronal, du moins tant que cet ordre patronal reste dans les limites du droit, droit contrôlé par la justice. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Et donc, dans ces conditions, la surveillance et le contrôle des salariés, en fait, occupent une place centrale dans le dispositif entrepreneurial. Ils occupent ces questions de surveillance et de contrôle occupent une place centrale dans au moins trois manières. D'abord, ces questions de surveillance, de contrôle sont liées donc à la question de la discipline dans le travail. Utiliser le terme de discipline, c'est utiliser, une fois encore, mais évidemment on ne peut guère faire autrement aujourd'hui, vu la thématique, c'est utiliser Foucault, c'est utiliser surveiller et punir, surveiller et punir, l'ouvrage de 1975 dans lequel Foucault essaye de mettre en valeur toutes les différentes formes de discipline dans un certain nombre de lieux, qu'il s'agisse de l'école un petit peu, de l'usine et de la manufacture, je vais y revenir tout de suite, un petit peu, de la prison, du monastère, beaucoup plus, en tout cas la prison. Quoi qu'il en soit, il évoque un certain nombre de moments, la manufacture et l'usine, qui sont un des lieux centraux où se mettent en œuvre des disciplines. Se met en œuvre cette discipline. Alors, cette définition de la discipline, je voudrais revenir une seconde, elle est effectivement très spécifique. Elle est liée, j'y reviendrai dans un instant, et c'est ce que disait Bertrand tout à l'heure, elle est liée à la question d'un corps de savoir qui donne du pouvoir, mais bon, ça a été déjà dit. Mais elle est liée, cette discipline, elle n'a pas tant pour objectif d'augmenter la suggestion des ouvriers, c'est-à-dire le fait qu'ils soient totalement, quasiment des esclaves de l'employeur. C'est pas l'objet de la discipline, mais plutôt d'essayer d'inciter les salariés au travail et donc d'inciter les salariés au respect des injonctions de l'employeur. C'est-à-dire que cette discipline est une manière donc d'inciter les travailleurs finalement à intégrer cette domination, on pourrait dire, et en même temps à travailler avec efficacité et utilité. Donc une discipline, elle a moins besoin finalement de forces contraignantes, car elle est plus intériorisée par les individus. Cette forme de discipline, dit Foucault, joue de plusieurs manières. D'abord, la discipline produit un effet de clôture. Clôture matérielle des limites de l'usine, clôture symbolique aussi de l'espace du travail. Et il dit ainsi, page 166, c'est qu'il s'agit, à mesure que se concentrent les forces de production, d'en tirer le maximum d'avantages et d'en neutraliser les inconvénients, de protéger les matériaux et outils et de maîtriser les forces de travail. Voilà, il y a cette idée. La clôture permet la maîtrise. Clôture, certes, mais aussi quadrillage. Il s'agit de donner à chacun une place précise dans le dispositif de travail, de manière à éviter les mouvements et de manière aussi à rendre plus efficace le travail. Bref, pour Foucault, ce quadrillage est lié au processus de division du travail, de division de la production, et a aussi, j'insiste pas là-dessus, pour objectif d'individualiser le travail. Alors, ces technologies disciplinaires liées au travail, c'est quoi ? C'est les emplois du temps, c'est la rationalisation de l'action du corps, c'est le travail de connaissance de l'action des travailleurs. Et on n'oubliera pas que Taylor, au départ, qui a inventé cette organisation scientifique du travail, que Taylor est un ingénieur, est une espèce d'ancêtre des ergonomes, c'est-à-dire qui produit du savoir sur le travail, sur la façon dont les individus travaillent pour mieux le contrôler et mieux le transformer. Donc, ces technologies, emploi du temps, rationalisation, connaissance de l'action des travailleurs, architecture aussi disciplinaire, hein, et ça c'est très connu sur la prison et le fameux panoptique, l'endroit où tout le monde regarde tout le monde, mais c'est aussi vrai dans les écoles et c'est aussi vrai dans les usines. Foucault historicise ces disciplines, ces dispositifs disciplinaires dont il date la genèse à peu près au XVIIIe siècle, mais il me semble qu'on pourrait effectivement l'élargir aux périodes d'industrialisation, au développement du taylorisme, et tout en se demandant si évidemment cette production de discipline n'est pas toujours présente aujourd'hui, ou du moins si réfléchir en termes de discipline du travail, discipline liée au travail, ne permet pas de penser ce qu'il se passe aujourd'hui. Et la réponse est oui, évidemment. Et donc, c'est en allant chercher du côté du droit que on peut essayer de voir comment se met en œuvre cette question des disciplines. Et là, le mot discipline existe, puisque dans le droit du travail, dans le code du travail, il y a une partie liée au droit disciplinaire, c'est-à-dire à ce que l'on a le droit de faire et à ce qu'on n'a pas le droit surtout de faire quand on travaille dans l'entreprise. Un juriste qui est aussi un humoriste cite quelque chose que je cite à nouveau, Jean-Emmanuel Rey, cite un règlement intérieur datant de 1850 qui dit « Piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. Les employés EES ne se laisseront pas aller aux fantaisies des couleurs vives. Elles ne porteront que des bas raccommodés. » Et je vais vous montrer après que cette question des vêtements est en fait une question absolument centrale aujourd'hui dans la surveillance et dans le contrôle des salariés. Donc, un certain nombre de règlements intérieurs, d'obligations disciplinaires qui renvoient à, si on ne les suit pas, des amendes, des avertissements, des ruptures de contrat possibles. Et donc aujourd'hui, ce droit disciplinaire non seulement continue d'exister, on verra dans un instant qu'il a des limites, mais il continue d'exister. Il se développe même avec, dans les entreprises, des chartes éthiques qui renforcent encore ces questions de discipline. Alors il y a toute une discussion jurisprudentielle que je vous passe pour savoir si la charte éthique peut être considérée comme un règlement intérieur ou pas. Mais enfin, ça, c'est des questions proprement de juristes. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui le code du travail et le droit disciplinaire est officiellement purgé d'un certain nombre d'éléments, et notamment, j'en parlerai peut-être après, il est purgé de tout ce qui est négociable, puisqu'il y a tout un ensemble de choses qui désormais font l'objet de négociations qui donc ne sont plus dans le règlement intérieur. Il reste dans le code, ce règlement, des règles d'hygiène et de sécurité, la question du port de la tenue de travail, la question des frais professionnels, les questions de rapport à l'informatique, etc., etc. Et évidemment, le non-respect de ce droit disciplinaire peut conduire l'employeur à en fait qualifier le comportement du salarié de faute grave, comme on dit dans le droit du travail. Et du coup, l'employeur obtient un pouvoir qu'on appelle juridiquement exorbitant sur le salarié, en cela que il peut rompre immédiatement le contrat de travail, ou même exclure immédiatement et sur le champ un salarié qui n'a pas respecté ce règlement. Donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de principes et tout un ensemble d'acteurs pour assurer le respect du cadre disciplinaire du travail, tout un ensemble d'acteurs qui sont souvent ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, qui a pour rôle d'assurer la pérennité du pouvoir patronal à travers le règlement intérieur, pouvoir patronal qui est donc totalement légitime en cela que c'est une légitime dans le cadre du droit puisque c'est un contrat de travail qui a été signé. Il y a, me semble-t-il, une troisième forme de contrôle et de surveillance qui peut être mise en valeur, moins dans une perspective proprement juridique cette fois-ci, que dans une perspective qu'on va appeler managériale. On a déjà beaucoup utilisé le mot. Je voudrais juste montrer, enfin ici le restreindre, je le restreins très, très précisément à la question du management, c'est-à-dire du mode de gestion du personnel. Voilà, hein, c'est la logique managériale, c'est d'abord celle, la manière dont on gère le personnel, dont on gère ce qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Et dans, ou les ressources humaines, dans ce cadre-là, contrôler et surveiller le travail pour l'employeur, c'est contrôler et surveiller la qualité et la quantité du travail. C'est contrôler les performances des employeurs. Ce qui ne renvoie plus donc au respect des règles officielles du travail, mais officielles et donc juridiques, mais d'un certain nombre de règles prescrites, formellement ou non, par l'employeur, pour augmenter la production, augmenter la productivité, augmenter l'efficacité de l'organisation et de l'entreprise, etc. Alors, ces outils de contrôle du respect, enfin, ces outils de contrôle de la qualité et de la quantité du travail, il y en a un certain nombre. D'abord, je vais insister sur deux principalement. La première, c'est celle d'un certain nombre de mesures quantitatives de la quantité du travail réalisé ou même de la qualité. Alors, j'ai déjà évoqué la question taylorienne. On sait que la grande invention de Taylor, c'est le chronomètre. Le chronométrage des activités. Mais on pourrait en citer tout un ensemble de ces mesures quantitatives, le nombre de ventes pour les vendeurs, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de produits terminés pour les ouvriers ou encore le pourcentage de défauts sortis de la chaîne ou même pour les travailleurs de l'audiovisuel, par exemple, l'audimat, hein, qui est une mesure de contrôle de la qualité du travail. Et du coup, on voit bien qu'on a là un ensemble d'indicateurs quantitatifs qui se veulent objectifs en cela qu'ils objectivent finalement l'efficacité du travail. Il faudrait montrer comment ces indicateurs, je ne peux pas trop le faire là, et d'ailleurs je n'ai pas encore bien avancé là-dessus, mais comment ces indicateurs-là sont aussi l'objet de négociations juridiques pour savoir si, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que vendre et combien on vend, combien on a le droit de vendre, et que même ça, c'est l'objet d'une vérification juridique. Donc, un certain nombre de mesures quantitatives. Et puis, évidemment, l'élément le plus connu de ces modes d'objectivation, de ces modes de mesures, de contrôle de la qualité et de la quantité, ce sont évidemment les entretiens annuels d'évaluation, très connu par un certain nombre d'entre vous qui travaillez dans le privé notamment, dans le public, on commence à l'avoir, mais nous autres enseignants sommes encore protégés, où on demande aux salariés en fait de mesurer lui-même ses performances, de mesurer l'adéquation de ses compétences au poste de travail. Et on passe ainsi, mais j'insiste pas parce que Hélène va l'évoquer longuement, on passe ainsi du contrôle à l'autocontrôle. Hein, c'est-à-dire, on est amené à objectiver soi-même ses qualités et ses compétences. Donc, Au cœur du travail, il y a donc bien cette question du contrôle. Contrôle, on le voit bien, autour de dispositifs disciplinaires à la fois juridiques et donc managériaux. Mais dans le même temps, et c'est ça que je voudrais évoquer pour terminer, dans le même temps, ce qui émerge au moins depuis le début des années 1980, c'est une lutte juridique, au moins, contre les abus, on va dire, du pouvoir patronal, contre un pouvoir patronal qui est qualifié d'abusif. Toute la question est de savoir où commence et où l'abus. Donc, depuis cette période, à peu près, on pourrait la dater de 1982, je vais revenir tout de suite, il y a donc un certain nombre de luttes contre la surveillance, de luttes contre le contrôle, et avec elles, le développement d'un cadre de protection de la vie privée, de la protection du salarié en tant que personne. Donc cette thématique, en fait, c'est la thématique des libertés dans le travail, des libertés du travailleur, du respect du travailleur comme personne, comme individu, du respect de la dignité du travailleur, qui est donc vu comme un individu et non plus seulement comme un travailleur et comme un salarié. C'est ce que je dirais pour terminer. Alors, si on veut faire une généalogie rapide de cette thématique qui explose aujourd'hui à telle aune qu'on a l'impression que le droit du travail ne s'intéresse plus que à la question de discrimination, harcèlement, dignité des travailleurs, liberté du travailleur, et que tout le reste, désormais, semble, en tout cas dans la jurisprudence, de plus en plus passer sous silence. Donc si on veut revenir un tout petit peu en arrière, il faudrait évoquer les lois Auroux de 1982. Alors les lois Auroux, c'est du nom de Jean Auroux, ministre du Travail, très proche à l'époque de la CFDT, ex-PSU, je pense, et qui est très connu pour une loi sur la négociation, étendant la négociation dans l'ensemble des entreprises, ou presque, étendant le droit syndical et essayant de contrôler le droit disciplinaire, essayant de produire des limites à l'arbitraire patronal, c'est-à-dire à l'étendue du droit disciplinaire de l'employeur. Et dans les lois Auroux, on a une définition très large de la liberté, des libertés du salarié, définition très large qui précisément me semble particulièrement intéressante parce qu'elle est double et qu'elle permet d'aller dans deux sens. Les libertés, ce sont évidemment les libertés syndicales, hein, les libertés de produire du collectif et de se défendre collectivement, mais les libertés, ce sont aussi des libertés individuelles, donc des protections individuelles. Et les lois Auroux sont vraiment dans une... Après, ça dépend comment on les lit. Il y a deux manières de les lire, et il y a une tradition, effectivement, qui les lit, qui raccroche Auroux sur le grand processus d'individualisation. Et puis, il y en a un autre qui dit que c'est une espèce de fondateur, enfin, dans la suite de 68 plutôt, et du développeur de la négociation et donc du droit collectif dans les entreprises. La deuxième logique, justement, qui me semble... Enfin, le deuxième moment qui semble déplacer le curseur vers, précisément, cette question de l'individu, de la liberté de l'individu, de sa dignité, c'est le développement du droit européen du travail, qui a beaucoup de mal, il faudra en parler longuement, mais qui a beaucoup de mal à se développer parce que ce n'est pas vraiment une catégorie européenne. Enfin, l'Europe n'a pas grand-chose à dire, le droit européen n'a pas trop le droit de dire grand-chose sur la question des salariés, donc elle se contente, c'est beaucoup, mais elle se contente, de lutter pour des droits individuels, pour la dignité, etc. Donc c'est la jurisprudence des cours européennes, je passe, Cour européenne des droits de l'homme, et après toutes les chartes fondamentales qui se retrouvent dans le traité constitutionnel européen, etc. etc. En France, bon, je n'ai pas le temps de le dire, mais le point de départ, c'est une loi du 31 décembre 1992 qui pose les libertés individuelles qui ne peuvent pas, qui doivent être, le respect des droits, des libertés individuelles ne doit s'arrêter. Enfin, comment on va dire, c'est plutôt l'inverse. Je vais le lire, ce sera plus simple. La loi exclut que soient apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Donc on voit bien qu'il y a le mot personne, il y a le mot voilà. C'est bien les individus qui deviennent le cœur des choses. Et dans les années 2000, c'est bien cette logique qui se développe. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant pour terminer. Elle se développe. C'est bon.
Ça va. 5 minutes.
Ouais. 5 minutes encore. Ah, c'est fini.
C'est fini, mais.
Ah ben alors. Non mais il faut y aller, Arnaud. Il n'ose pas. On se demande pourquoi. Donc, ça se voit dans un certain nombre d'éléments, mais simplement, et donc je conclurai là-dessus, cette question du contrôle, puisque c'est de ça dont il s'agit, on va essayer de contrôler le contrôle des patronales, il est assez paradoxal, parce que précisément... parce que les organisations syndicales, et ça, c'est, je voulais le dire, et les avocats avec qui ils travaillent, vont évidemment s'appuyer sur cette question de dignité, sur la lutte contre le harcèlement, sur la lutte contre les discriminations, pour essayer de mettre un coin, on va dire, d'attaquer d'une certaine manière le pouvoir patronal, mais ce faisant, évidemment, dans une sorte de ruse de la raison capitaliste, si on veut, eh bien, elles vont décollectiviser le monde du travail, puisque ce ne seront plus des collectifs qui vont être défendus, mais des individus seuls, et ce n'est plus en tant que travailleur que l'individu va être défendu, mais en tant que personne et en tant qu'individu. Et donc, au final, on voit bien que, et ce sera ma toute dernier élément, ce faisant, ils entrent dans une espèce de double contrainte, ces syndicats et ces avocats qui les défendent. Donc, ils sont d'abord obligés de jouer le jeu du droit, ce qui les entraîne dans un type de mobilisation qui demande beaucoup de ressources qu'ils n'ont pas toujours. Et puis, par ailleurs, ils sont contraints d'accepter le processus d'individualisation et de prise en compte de la personne plutôt que la prise en compte du travailleur. Et évidemment, on nie, ce faisant, la spécificité de l'individu au travail, et en particulier les traditions des formes de défense et de lutte collective qui existent depuis toujours. Voilà, merci.